Claude de Charenton, Sermon pour un jour de jeûne, les fruits de la repentance. Texte biblique, Proverbe chapitre 16, versets 6 et 7. Il y aura propitiation pour l'iniquité par gratuité et vérité, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Quand l'Éternel prend plaisir aux voix de l'homme, il apaise même envers lui ses ennemis. Mes frères, Dieu devant qui nous sommes aujourd'hui humiliés est appelé dans l'Écriture sainte non seulement un Dieu juste, un Dieu vengeur et un feu consumant, mais aussi un Père de miséricorde et un Dieu d'espérance. Cela veut dire qu'encore que souvent il déploie ses châtiments sur les hommes et qu'il le fasse même quelquefois d'une manière éclatante et terrible, il est pourtant toujours un Dieu bon, tendre, enclin à la pitié, de facile accès, prompt à s'apaiser envers ceux qui l'invoquent. Un Dieu, enfin, qui ne manque jamais de pardonner et de distribuer des grâces dès que l'on se convertit à lui. « Je suis vivant, dit-il lui-même. Je ne prends point plaisir à la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Convertissez-vous, dit son prophète Malachie, et vous verrez la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Toute l'Écriture est pleine de ces déclarations, et en effet, la repentance est une action si sainte et si agréable à Dieu qu'il n'est pas possible qu'elle demeure sans fruit. Dans cette vue, Jésus-Christ disait au 5e chapitre de saint Matthieu : « Bienheureux sont ceux qui mènent deuil, car ils seront consolés. » Vous voyez bien qu'il ne parle pas des afflictions des mondains. Ces gens-là ne peuvent recevoir aucune solide consolation dans leurs maux. Il parle de ceux qui s'affligent devant Dieu pour la grandeur et pour le nombre de leurs fautes, et qui, étant vivement touchés en leur conscience des péchés qu'ils ont commis, sentent à peu près les mêmes agitations que David a senties et qu'il a si naïvement exprimées dans les psaumes de sa pénitence. « Ô Dieu, dit ce prophète, aie pitié de moi selon ta gratuité, et selon la grandeur de tes compassions, efface mes offenses. Lave-moi de mon iniquité et me nettoie de mon péché, car je connais mes fautes et mon péché est continuellement devant moi. Il n'y a rien d'entier en ma chair. À cause de ton indignation, je n'ai nul repos en mes os à cause de mon péché. » Certainement, quand on est dans cet état, la consolation n'est pas loin. Dieu ne tarde pas à nous rendre la joie de son salut. Il écoute la voix de nos larmes, il ne méprise point le cœur froissé, il rétablit les os qui sont brisés. Mes frères, cet état d'affliction est celui-là même où nous supposons que vous êtes à présent, et après le soin que vous avez pris de vous rendre dans ce temple, après ce qu'on vous y a déjà dit et ce que vous avez écouté avec beaucoup d'attention, et comme je l'espère avec beaucoup de réflexion, nous ne croyons pas que cette supposition soit téméraire ou déraisonnable. Dieu veuille que nous ne soyons pas trompés. Mais après tout, quelle apparence y a-t-il que nous le soyons? Vous n'êtes ni assez insensible pour contempler de sang-froid l'idée de tant de malheurs qui nous accablent et de tant d'autres qui nous menacent, ni assez aveugle pour ne pas voir que tous ces malheurs procède de nos dérèglements. Vous ne craignez point si peu le Dieu que vous faites profession de servir, que de propos délibérés vous voulussiez aujourd'hui attirer sur vous la dernière malédiction par des soupirs affectés et par des contenances d'hypocrites. Et enfin, vous n'êtes pas assez perdu pour vous faire de la parole de Dieu un fiel très amer et un lien d'iniquité. Non, sans doute, nous avons de meilleurs sentiments de vous. Et pour ce qui regarde Dieu, notre Créateur et notre Maître, comme il est le Dieu de toute chair et de tout esprit, il ne vous aura pas refusé sa grâce si vous la lui avez demandée. Il nous envoie vers vous, et puisqu'il veut bien se servir aujourd'hui de notre ministère pour votre conversion, c'est un signe qu'il l'attend et qu'il la désire. Je suis d'ailleurs persuadé qu'il n'a point dit au funeste ministre de ses jugements: « Va, engraisse le cœur de ce peuple, afin qu'en voyant il ne voie point, et qu'en entendant il n'entende point, de peur qu'il ne se convertisse et que je ne les guérisse. » Non, mes frères, il ne nous a pas abandonnés jusqu'à ce point. Quelques pécheurs que nous soyons, nous sommes encore son peuple, et quelque irrité qu'il soit contre nous, il est encore notre Dieu, j'en suis assuré. Et c'est dans cette assurance que j'ai choisi le texte que je viens de lire pour en faire le sujet de cette dernière action. Il y aura propitiation pour l'iniquité par gratuité et vérité, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Quand l'Éternel prend plaisir aux voies de l'homme, il apaise même envers lui ses ennemis. C'est la parole de grâce que je vous annonce. Elle rassemble les trois principaux effets que nous devons espérer de notre jeûne. Le premier à l'égard de Dieu. Il y aura propitiation pour l'iniquité par gratuité et vérité. Le second à l'égard de nous-mêmes. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Le troisième à l'égard de ceux qui ne nous aiment pas. Quand Dieu prend plaisir aux voies de l'homme, il apaise même envers lui ses ennemis. Ce sont là les trois points dont j'aurai à vous entretenir. Ils répondent aux trois principales causes de cette extraordinaire dévotion, qui sont la colère de Dieu, nos péchés et nos afflictions. Dieu, notre Sauveur et notre Père, veuille répandre sur cette assemblée un nouveau rayon de son Saint-Esprit et de sa lumière céleste, afin d'achever en nous l'œuvre de sa grâce, à la gloire de son nom et à l'avancement de notre salut. Amen. Le premier fruit que nous devons attendre de notre repentance et de notre humilité, c'est le pardon de nos péchés. Il y aura propitiation pour l'iniquité. Le sens de ces paroles est clair. Elles signifient que Dieu s'apaisera envers nous, qu'il se réconciliera avec nous, et qu'en nous remettant les offenses que nous lui avons faites, il nous redonnera son amour et sa paix. Comme le plus grand de nos malheurs est sa colère, le plus grand aussi de nos biens est le retour de sa faveur. Et non seulement c'est le plus grand de nos biens, mais c'est le principe ou la source de tous les autres biens, ou pour mieux dire, c'est ce qui donne à tous les autres leur qualité de bien. Car sans la paix de Dieu, la possession de tout le monde n'est rien. C'est elle qui donne le prix et le poids à tout le reste. Elle fait le repos et la joie de la vie. Elle est notre unique consolation dans la mort et le fondement de l'espérance que nous avons d'une félicité éternelle après la mort. Au reste, bien que cette doctrine de propitiation de Dieu soit de Salomon, elle est pourtant chrétienne et évangélique, non mosaïque ou légale. La loi, considérée en elle-même, n'admettait point de repentance, ni ne promettait de pardon. Agissant avec les hommes comme s'ils eussent été dans l'intégrité de leur nature, et les supposant au même état que Dieu les avait créés au commencement, elle se renfermait uniquement dans les moyens de conserver l'amour et la communion de Dieu, sans toucher en une manière à notre réconciliation avec lui quand nous l'avons offensé. Toutes les fois donc que vous trouvez dans l'Ancien Testament des expressions semblables à celles-ci, comme il y en a une infinité qui marque le pardon des péchés, il faut toujours se souvenir que c'est un évangile anticipé, ou si vous voulez, des semences de grâce, mêlées parmi la loi pour en tempérer les rigueurs, et il les faut entendre par rapport au son de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui elles sont toutes fondées, puisqu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Or, de la communion de ce Rédempteur et de la participation de son sacrifice, il n'y a que désolation et mort éternelle pour les pécheurs. La décision formelle de l'Écriture est qu'il n'y a point de salut en aucun autre, nul autre nom sous le ciel par lequel on puisse être sauvé. Saint Paul déclare que Dieu l'a ordonné de tout temps pour propitiatoire par la foi en son sang, et lui-même assure qu'il est la voie, la vérité et la vie, et qu'on ne vient au Père que par lui. Mais si Jésus-Christ seul est notre propitiation, si la rémission de nos péchés ne se trouve qu'en lui, il faut reconnaître aussi qu'elle se trouve en lui si pleinement et si parfaitement qu'on ne saurait rien concevoir de plus parfait. Il est puissant, dit l'apôtre, pour sauver à plein tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Premièrement donc, il est notre propitiation pour toutes sortes de péchés, de quelque nature et de quelque qualité qu'il soit, et vous ne trouverez que le seul péché contre le Saint-Esprit, pour qui l'Écriture dise qu'il n'y a point de pardon, et qui soit accepté de l'étendue du sacrifice de Jésus-Christ. En second lieu, il est notre propitiation non seulement pour les péchés commis avant notre première conversion, mais il l'est encore pour ceux que nous commettons dans la suite, pour ceux qui suivent notre première justification, de même que pour ceux qui la précèdent. En effet, et puisque nous péchons tous les jours, et que tous les jours nous avons besoin d'obtenir de nouvelles grâces, que nous servirait un premier pardon s'il y en avait un second, et après le second un troisième, et jusqu'à la fin de nos jours. La forme de l'alliance que Dieu a traitée avec nous par son Fils confirme cette vérité. « Je vous pardonnerai, dit-il, comme un bon père pardonne à ses enfants qui le servent. » Ces paroles supposent que nous sommes enfants de Dieu et que nous le servons en cette qualité, mais parce qu'elles supposent aussi qu'en le servant, nous faisons beaucoup de fautes contre le devoir des enfants. Elles déclarent en même temps que Dieu use d'indulgence envers nous et que son indulgence s'étendra jusqu'à la fin de notre vie. Remarquez, je vous prie, ce qu'il dit lui-même touchant Jésus-Christ, son Fils, au psaume 89. « Si ses enfants laissent ma loi et qu'ils ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes statuts et ne gardent pas mes commandements, je visiterai de verges leur transgression et de plaies leur iniquité, mais je ne retirerai point de lui ma gratuité et ne lui fausserai point ma foi. » Je ne violerai point mon alliance, et ce qui est sorti de mes lèvres, je ne le changerai point. Il y aura donc propitiation en la communion de Jésus-Christ, non simplement pour les premières iniquités ou pour les secondes, mais pour l'iniquité en général, en quelque temps que ce soit, fût-ce même au dernier de nos soupirs, et de quelque nature que soient nos péchés, si nous recourons à Dieu par une vraie repentance, il y aura propitiation. Salomon ajoute que ce sera par gratuité et vérité. Quelques interprètes entendent par cette gratuité et cette vérité la gratuité et la vérité de Dieu même, c'est-à-dire sa clémence et sa fidélité, sa miséricorde et sa constance ou sa fermeté dans l'accomplissement des promesses. Il est certain que ce sont là les principes ou les sources perpétuelles de notre réconciliation avec lui. La créature pécheresse ne peut jamais ni satisfaire à Dieu pour les péchés, ni mériter le retour de sa faveur, et la repentance elle-même, quoiqu'elle lui soit très agréable, ne saurait produire de si grands effets. La repentance ne peut être une satisfaction suffisante à la justice divine, car elle ne donne à Dieu que des soupirs, des larmes, et sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. Outre cela, nos soupirs et nos larmes, et notre sang même, quand nous le répandrions devant Dieu, sont d'un prix trop bas pour être une véritable satisfaction. Mais d'ailleurs, que donne à Dieu la repentance qui ne lui fut due avant même que le péché eût été commis? Une horreur extrême pour le crime, une condamnation expresse contre celui qui le commet, un amour ardent pour la sainteté, un désir entier de la suivre désormais, sans s'en éloigner en aucune manière, c'est ce que la repentance donne à Dieu, mais c'est aussi ce que tout homme lui doit naturellement, avant même qu'il ait péché. La repentance ne peut donc pas satisfaire suffisamment à la justice. Elle peut encore moins mériter, car outre qu'il y a toujours entre Dieu et nous une distance infinie qui ne laisse nul lieu à notre mérite, quel mérite peut-il y avoir dans le sentiment et dans la confession d'une misère et qui nous rend dignes de la mort éternelle? Il faut donc avouer que Dieu nous pardonne nos péchés et qu'il se réconcilie avec nous par sa pure miséricorde, sans satisfaction et sans mérite de notre part. Mais comme les actes de sa miséricorde dépendent uniquement de son bon plaisir et de cette liberté souveraine qui lui fait dispenser ses grâces à qui il lui plaît et quand il lui plaît, il faut reconnaître aussi que ce qu'il nous pardonne ne vient que de ce qu'il s'y est lui-même volontairement engagé par les promesses de son alliance et qui sont fermes et inviolables. D'où il s'ensuit que c'est non seulement par sa gratuité, mais aussi par sa vérité, c'est-à-dire par sa fidélité, qu'il se réconcilie avec nous. C'est l'explication que quelques interprètes donnent aux paroles de Salomon. Mais quoiqu'il n'y ait rien là qui ne soit bon et évangélique, je crois pourtant qu'il est beaucoup mieux de rapporter cette gratuité et cette vérité non à Dieu, mais à l'homme à qui Dieu pardonne les péchés. Cela me semble plus conforme au style de Salomon. Car il est vrai que dans ce livre des Proverbes, il s'attache beaucoup plus à marquer les vertus morales de l'homme qu'à représenter ce que nous appelons les attributs divins. Il veut donc dire que Dieu ne pardonne les péchés qu'à ceux qui ont revêtu un esprit de gratuité et de vérité, c'est-à-dire de charité et de sincérité. Il faut être bon, miséricordieux et charitable envers nos frères si nous voulons que Dieu le soit envers nous. Dans ce sens, saint Jacques a dit que jugement sans miséricorde sera sur celui qui n'aura point usé de miséricorde. Et notre Seigneur même avait dit avant saint Jacques que les miséricordieux sont bienheureux parce que miséricorde leur sera faite. Mais outre cela, il faut que notre conduite soit franche, sans feinte et sans fraude, si nous voulons obtenir de Dieu la rémission de nos offenses. Il déploie, dit David, sa gratuité sur ceux qui le connaissent et sa justice sur ceux qui sont droits de cœur. Psaume 36. L'Éternel, dit-il ailleurs, a en abomination l'homme de sang et le trompeur. N'avez-vous jamais fait réflexion sur ce que ce même prophète a écrit au psaume 18 ? Éternel, tu uses de gratuité envers celui qui use de gratuité, tu es entier à celui qui est entier, mais tu es sévère envers celui qui est dur. C'est à peu près ce que Salomon dit ici. Il y aura propitiation par gratuité et vérité. Dans la première création, Dieu fit l'homme à son image. Mais dans la dispensation de sa grâce, il semble, si je l'ose ainsi dire, qu'il se fait lui-même à l'image de l'homme. Il est miséricordieux envers les miséricordieux, fidèle et véritable envers les sincères et les véritables. Voilà le sens de cette première partie de notre texte. La seconde n'est pas bien difficile à entendre, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La crainte de l'Éternel est en général cette vertu que nous appelons la religion ou la piété, cette première et principale partie de notre morale qui regarde immédiatement le culte ou le service de la divinité. Les Hébreux, n'ayant point de terme propre pour exprimer ce bon et saint état de l'âme envers son Dieu, que nous nommons d'un seul mot, religion ou piété, ils l'appellent d'ordinaire la crainte de l'Éternel. En particulier, ce terme signifie aussi trois mouvements de la conscience de l'homme, à savoir la frayeur des jugements divins, le respect de sa souveraine majesté, l'appréhension de l'offenser et d'encourir son indignation. C'est craindre Dieu que de trembler à la vue de ses supplices et de ses châtiments. C'est le craindre que s'anéantir au pied du trône de sa gloire, et c'est le craindre enfin que de nous défier sans cesse de notre propre fragilité et d'être épouvanté de l'idée de sa disgrâce ou de sa colère. Il est donc bien aisé de pénétrer dans le sens de Salomon. Il veut dire que ce sont là les seuls véritables principes qui détournent l'homme du péché, et si cette crainte de Dieu ne sanctifie le cœur, il n'y a rien qui soit capable de le sanctifier. La bonté du tempérament, les préceptes de la philosophie, une bonne naissance, une heureuse éducation, les bons exemples, la rigueur des lois humaines, plusieurs années d'expérience, tout cela ne saurait produire l'effet dont il s'agit. Si vous en demandez les raisons, je puis vous en donner deux. L'une est parce que tous ces principes ne peuvent jamais être assez forts pour vaincre la corruption de notre nature. Ils peuvent en quelque sorte la combattre et la réprimer, lui servir de frein, ou si vous voulez, de digue pour arrêter ses débordements et ses accès. Mais ce ne sont pas des principes capables de convertir l'homme, c'est-à-dire de le transformer, de le régénérer, de le ressusciter d'entre les morts, d'en faire une nouvelle créature. De si grands effets ne sont dus qu'à la crainte de Dieu. La seconde raison est que quand ces principes produiraient en nous tout ce qu'ils prétendent, Il ne saurait former une véritable vertu parce qu'ils ne l'inspirent pas. Ils inspirent tout au plus une certaine honnêteté morale et civile, pour ne rien faire qui soit indigne de l'excellence de notre nature ou qui choque le commerce que nous avons les uns avec les autres. Mais ce n'est pas là la véritable vertu. Il n'y a point de véritable vertu que celle qui est l'image et le fruit de vertu divine. Ôtez à la créature la relation qu'elle a à son Créateur. Ne lui laissez que les relations qu'elle a ou à elle-même ou aux autres créatures. Vous lui ôtez la véritable vertu et ne lui en laissez qu'une ombre, une matière informe, un corps mort et inanimé. Qu'est-ce donc que la véritable vertu ? C'est l'impression de Dieu dans toute l'âme de l'homme. Si Dieu n'en est pas la cause et le motif, l'exemplaire et la fin, il n'y a point de véritable vertu. Salomon a voulu dire cela même par ses paroles, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Mais il ne faut pas oublier de remarquer que ce qu'il a en dit, il le dit après avoir parlé de la propitiation. Il y aura propitiation pour l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand Dieu nous pardonne nos péchés, il nous impose la condition de n'y retomber plus, et il nous dit à peu près ce que Jésus-Christ disait au paralytique quand il lui eut rendu la santé, « Et voici, tu as été guéri, ne pèche plus désormais. » L'acte de notre repentance qui précède notre réconciliation nous dispose à cela même, car comme un homme qui est échappé d'un embrasement conserve fortement l'idée du danger où il a été, de sorte que quand il se présente une semblable occasion de s'envelopper dans les flammes, ses anciennes frayeurs ne manquent pas de se réveiller et de le rendre plus circonspect qu'il ne serait autrement. De même, quand un homme rétabli dans la paix de Dieu se souvient des douleurs et des agitations de conscience qu'il a souffertes pour sortir de son péché, quand il se remet devant les yeux le péril où il a été d'être pour toujours rejeté de la communion de son Sauveur et plongé dans la damnation, il n'est pas possible que ces funestes idées ne lui fassent regarder avec horreur les occasions d'offenser Dieu et qu'elles ne le rendent beaucoup plus précautionneux. Le pardon même que nous avons obtenu n'y contribue pas peu, car il nous rend le péché beaucoup plus odieux et plus déshonnête qu'auparavant. Le cœur d'un homme de bien ne peut pas facilement oublier la grâce que Dieu lui a faite et le sentiment de l'amour paternel de Dieu est trop doux et trop heureux pour ne mériter pas d'être conservé. C'est ce qui fait que Salomon parle de se détourner du mal ensuite de la propitiation. Et c'est pour la même raison aussi qu'il y ajoute la crainte de l'Éternel, au même sens que David disait au psaume 130, « Il y a pardon par-devers toi, afin que tu sois craint. » Le pardon est non seulement un engagement à la crainte de Dieu, mais il en est aussi la cause presque infaillible, car il nous met d'un côté devant les yeux une image si parfaite de toute la gloire de la divinité et de l'autre une image si parfaite de toute la misère de l'homme qu'il ne se peut que ces deux images produisent la crainte dont il s'agit. Là apparaît la gloire de la justice de Dieu qui condamne les coupables et qui n'absout que les innocents. Là apparaît la gloire de sa puissance ineffable qui a bâti les enfers pour l'exécution des arrêts de la justice et qui précipite ce que la justice a condamné. Là apparaît sa connaissance infinie, qui découvre les choses les plus cachées, qui pénètre les secrets des cœurs, et à qui rien n'échappe de tout ce qui se fait sous le soleil. Là apparaît la profondeur des mystères de la sagesse, de nous avoir procuré un aussi admirable sacrifice de propitiation que celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Là apparaissent les richesses de sa patience, et de sa longue attente qui nous a souffert si longtemps dans notre péché, et qui, par manière de dire, a négligé ses propres intérêts pour nous amener à la repentance. Là apparaît la gloire de sa miséricorde qui nous pardonne, et qui, en nous pardonnant, nous élève à de plus grandes faveurs que nous n'en eussions obtenues si nous eussions conservé notre première innocence. Là apparaît enfin son autorité suprême et sa majesté, car en cela même qu'il nous pardonne et qu'il nous adopte pour ses enfants, il témoigne qu'il est au-dessus des lois et qu'il peut de plein droit disposer de toutes choses. Il ne se peut que cette image de la gloire de Dieu ne nous inspire sa crainte, mais c'est aussi ce que fait l'image de notre misère qui paraît dans ce même acte du pardon de nos péchés. Nous nous y voyons esclaves de notre corruption naturelle qui se déploie dans toutes nos actions. Nous nous y voyons cendre et poudre au pied du trône de Dieu, soumis aux peines de sa vengeance que nous avons justement méritées, et dans l'impuissance d'éviter ces peines, si le sang de Jésus-Christ et la miséricorde du Père ne nous en délivrent. Nous nous y voyons environnés de tentations, sujets aux surprises de notre propre fragilité, et à toute heure exposés à de nouveaux dangers. Quelle impression peuvent faire naturellement ces idées sur nos cœurs, si ce n'est celle de la crainte de Dieu? C'est ce que veut dire Salomon dans cette seconde partie. Pour ce qui regarde ces dernières paroles, quand l'Éternel prend plaisir aux voix de l'homme, il apaise même envers lui ses ennemis. Le sens en est évident, et ce serait abuser de votre attention que de prétendre les éclaircir. Il suffira d'y faire quelques observations. Premièrement, les voix de l'homme sont ses mouvements, ses sentiments, ses pensées, ses paroles, ses actions. En un mot, toute sa conduite et les principes de sa conduite. L'Écriture nous parle de deux sortes de voix, celle de Dieu et celle de l'homme. Celles de Dieu sont les voix de sa providence, par laquelle il gouverne en général toutes les créatures, et en particulier son Église. Celles de l'homme sont les œuvres et les manières de sa vie. Ce sont en effet comme deux chemins. Dieu marche dans l'un et l'homme dans l'autre. Il les faut soigneusement distinguer, et en voici les principales différences. Les voies de Dieu sont cachées à nos yeux. Elles ne nous paraissent que par les événements, c'est-à-dire par les vestiges et les impressions que Dieu y laisse quand il y passe, mais d'elles-mêmes, elles nous sont inconnues. Ses jugements, dit l'apôtre, sont incompréhensibles et ses voies difficiles à trouver. Celles de l'homme sont toujours exposées aux yeux de Dieu. Il les voit avant que l'homme y entre, il les contemple quand il y est et il s'en souvient quand il est passé. Les voies de l'homme, dit Salomon, sont devant les yeux de l'Éternel et il balance tous ses chemins. Les voies de Dieu sont partout, tout l'univers est son chemin, car toutes choses sont soumises à l'ordre de sa providence. Celles de l'homme sont étroites, bornées et de fort petite étendue. Les voies de Dieu sont devant les yeux de son conseil de toute éternité, ou, comme parle l'Écriture, elles lui sont connues de tout temps. Celles de l'homme ne lui sont presque connues que quand il y est. L'avenir se dérobe à notre vue, et le passé même échappe souvent de notre mémoire. Celles de Dieu sont toujours justes et droites, et bien que les raisons nous en soient le plus souvent impénétrables, elles ne laissent pas d'être sages et bien réglées. L'œuvre du rocher est parfaite, disait Moïse. Toutes ses voies sont jugement. Le Dieu fort est vérité sans iniquité. Il est juste et droit. Les voies de l'homme sont quelquefois droites, mais quelquefois aussi ce ne sont que des égarements. Et c'est pourquoi David disait de lui-même « J'allais à travers champs. Nos voies sont droites quand nous suivons notre vocation et que nous obéissons à la loi de Dieu. Ta parole sert de lampe à mes pieds et de lumière à mes sentiers, dit le prophète. Ce sont au contraire des égarements quand nous nous écartons de notre vocation et que chacun de nous veut être son propre guide et son flambeau. Il y a des voies, dit l'Écriture, qui semblent droites à l'homme, mais leurs issues tendent à la mort. Lorsqu'elles sont vraiment droites, Dieu les approuve. Quand elles sont égarées, il les condamne. Au reste, Salomon parle ici tant des voies de l'homme que de celles de Dieu. Pour celle de l'homme, il dit que quelquefois Dieu y prend plaisir, ce qui suppose que quelquefois aussi Dieu les rejette, selon la distinction que je viens d'en faire. Et pour celle de Dieu, il les marque assez clairement, quand il ajoute que Dieu apaise les ennemis de l'homme, car il ne fait cela que par les voies secrètes et admirables de sa providence. À cette première remarque, il en faut joindre une autre, qui est qu'encore que nos voies soient droites et que Dieu y prenne plaisir, nous ne laissons pourtant pas d'avoir des ennemis. Que dis-je, que nous ne laissons pas d'en avoir? C'est la droiture de nos voies qui nous fait d'ordinaire nos ennemis. Le bon chemin que nous suivons nous les attire, et si nous voulions nous écarter avec eux, ils seraient bientôt nos amis. L'Église le savait bien lorsqu'elle disait au psaume 44 « Pour l'amour de toi, nous sommes tous les jours mis à mort et sommes estimés comme les brebis de la boucherie. » Jésus-Christ a ainsi déclaré à ses disciples « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai élus du monde, le monde vous hait. » Un ancien a dit sur ce sujet une assez belle chose que je ne puis m'empêcher de vous rapporter ici. Ce ne sont que deux mots, mais ces deux mots renferment beaucoup de sens. Il dit donc que l'Église est au monde précisément ce que l'âme est au corps. On ne peut rien penser de plus juste. Comme l'âme est dans le corps, et n'est pourtant pas une partie du corps, mais y habite comme dans une loge de terre, ou si vous voulez comme dans une prison, de même, l'Église est dans le monde, répandue parmi ses habitants, mais elle n'est pourtant pas une partie du monde. Bien que l'âme et le corps soient en société, ils sont néanmoins différents de nature, d'origine et de fin. L'un est chair et l'autre est esprit. L'un est de la terre et l'autre est du ciel. L'un retourne à la poudre dont il a été tiré et l'autre retourne à Dieu qui l'a donné. Il en est de même de l'Église et du monde. Encore qu'ils soient mêlés ensemble, et si mêlés qu'à peine des yeux humains les peuvent distinguer, ils n'ont pourtant rien de commun. L'un est le corps matériel et terrestre du vieil Adam, l'autre est le corps spirituel et mystique du Fils de Dieu. L'un est l'ouvrage du péché sorti du sein des ténèbres et de la corruption, l'autre est la production de l'élection éternelle, la fille de la grâce née des lumières du Saint-Esprit. L'un marche à grands pas vers l'abîme de la damnation, l'autre s'avance incessamment vers le but de la vocation d'en haut, qui est la gloire du paradis. Enfin, l'âme soutient et conserve le corps, pendant que le corps ingrat fait sans cesse la guerre à l'âme. Et de même, c'est l'Église qui soutient le monde, car sans elle, il y a longtemps que Dieu aurait arrêté le cours des générations. Mais le monde ne cesse de combattre contre l'Église et de travailler à sa ruine comme son plus mortel ennemi. Cependant, comme Dieu calme souvent l'impétuosité des passions de la chair qui font la guerre à l'âme, il calme et réprime aussi d'ordinaire celle du monde contre l'Église, et c'est ce que Salomon veut dire ici, « Quand Dieu prend plaisir aux voix de l'homme, il apaise envers lui ses ennemis. » Jacob éprouva cette vérité lorsque Dieu adoucit envers lui le cœur de son frère Ésaü. Les Israélites l'éprouvèrent lorsqu'ils sortirent d'Égypte et que Dieu leur fit trouver grâce envers les Égyptiens. Et en général, l'Église n'a jamais manqué de l'éprouver dans toute la suite des siècles. Quelque étrangère qu'elle ait été dans le monde, quelque aversion que le monde ait eue pour elle, Dieu n'a pas laissé de la conserver en son entier jusqu'à présent. Il a toujours si bien tempéré la fierté de ses ennemis qui n'en ont jamais venu à bout. « Dès ma jeunesse, dit-elle, ils m'ont tourmenté, mais ils n'ont pas eu l'avantage sur moi. » Psaume 126. Elle a été perpétuellement comme cette maison de la parabole qui, étant bâtie et fondée sur le rocher, soutient l'effort des torrents et des ravines d'eau sans être seulement ébranlée. Faites, je vous prie, encore ici une troisième remarque qui est que Dieu est le maître et le Seigneur absolu des cœurs et des esprits de tous les hommes. Je dis de tous les hommes car Dieu ne règne pas seulement sur ses fidèles, il règne aussi sur ses ennemis. S'il n'en était pas le maître absolu, comment pourrait-il les apaiser, modérer leur haine, réprimer leurs passions et changer leurs conseils? Il le fait pourtant, et c'est une vérité que Salomon nous enseigne ici. Il faut donc reconnaître que tout est soumis au pouvoir de sa providence et qu'il n'y a ni malice, ni dureté, ni fierté, ni rébellion qui n'obéissent à l'efficace de sa direction quand il lui plaît de la déployer. Oui, chrétiens, de la même manière qu'il préside sur les orages et sur les vents, sur les vagues impétueuses de la mer, il préside aussi sur les pensées des mondains. Il les arrête et il les tourne comme bon lui semble. Il leur marque les bornes et les mesures de leur action, et ce qu'il y a de plus consolant pour nous est que ce qu'il en fait, il le fait toujours pour le bien et l'avantage de son Église. Toutes choses aident ensemble en bien à ceux qui aiment Dieu. Voilà, mes frères, à peu près ce que j'avais fait dessein de vous dire en général sur les paroles de Salomon. Je n'ai pas cru vous devoir soustraire ces réflexions qui, d'elles-mêmes, peuvent contribuer quelque chose à votre instruction et à votre édification. Mais si votre attention n'est pas tout à fait épuisée, souffrez que je vous en demande encore un peu, car il me reste bien des choses à vous dire, qui, par cela même qu'elles sont particulières, vous seront peut-être plus utiles que les générales. Premièrement donc, encore que j'aie dès le commencement de cette action supposé votre repentance comme une chose que je ne pouvais pas révoquer en doute, je vous avoue pourtant que je n'ai pas l'esprit tout à fait en repos sur ce sujet et qu'il me reste du scrupule. Je ne veux pas parler ici de plusieurs profanes qui sont au milieu de nous, gens qui font profession ouverte de débauche et de libertinage, qui n'ont nul sentiment, ni de piété, ni de vertu, ni de véritable honneur, gens enfin plongés dans le vice, fiers, insensibles aux exhortations de la parole de Dieu, et si occupés des idées de la vie présente, ils ne sont plus capables de songer à celle qui est à venir. Comme ce n'est pas pour eux que ce jeûne a été annoncé, ce n'est point aussi d'eux que l'on peut attendre quelque chose, et les paroles de mon texte ne leur appartiennent pas. Je ne parle pas non plus ni d'un tas d'hypocrites et d'imposteurs que nous avons parmi nous, qui n'ont de la piété que les couleurs et les apparences, et qui cachent ou leurs impuretés ou leurs injustices sous le beau masque de la dévotion, ni d'un nombre de froids et d'indifférents qui regardent la religion comme une chose étrangère dont ils ne s'embarrassent pas. Que tels gens ne s'imaginent pas que ce soit eux à qui l'on dise « il y aura propitiation pour l'iniquité », pendant qu'ils ne seront parmi nous que pour déshonorer notre communion et pour attirer sur l'Israël de Dieu l'opprobre des nations et la colère du ciel, comment peut-on leur parler de paix et de bénédiction? C'est avec douleur, mais pourtant avec justice, qu'on est obligé, s'ils ne se convertissent pas, de leur appliquer ce que Josué disait à Caen, « Vous nous avez troublés, et Dieu vous troublera ». L'espérance de la propitiation ne regarde que les gens de bien. C'est de vous, mes frères, dont j'ai supposé la repentance. Mais c'est de vous aussi dont il me reste du scrupule. Je veux croire que vous aurez été touchés de quelques sentiments de douleur, et que la parole de Dieu qui vous a été prêchée aujourd'hui avec tant de force ne sera pas demeurée tout à fait sans fruit. Et que serait-ce s'il n'y avait encore au milieu de nous un résidu selon l'élection de grâce? Mais permettez-moi de vous le dire. Je doute que vous ayez porté votre douleur et votre repentance. Je ne dis pas jusqu'au point où vous devez la porter, car qui le peut? Mais jusqu'au point que le demande, humainement parlant, l'état pitoyable où nous nous trouvons. La colère de Dieu ne parut jamais ni si grande, ni si inexorable qu'elle a paru contre nous depuis un assez long temps. Nos afflictions s'entassent les unes sur les autres comme les flots d'une mer irritée. Elles se suivent les unes les autres de si près qu'à peine avons-nous le loisir de soupirer pour chacune d'elles. Notre ruine ne fut jamais ni si ardemment désirée, ni si hautement demandée, ni attendu avec plus d'espérance. Édom ne cria jamais ni plus vivement, ni plus fortement sur la misérable Jérusalem. À sac, qu'elle soit embrasée et jusqu'au pied des fondements rasés. Psaume 137. Avec tout cela, on ne vit jamais dans nos troupeaux, et en particulier dans celui-ci, tant de vices, tant d'actions scandaleuses que nous en voyons aujourd'hui. Il n'y en eut jamais un si grand nombre de tout ordre et de toute espèce. Nous n'entendons parler que d'injustice et de violence, de querelles et de ressentiments, d'usure et d'oppression, de fourberie et d'infidélité, d'adultère et de sales intrigues, d'ivrognerie et de dissolution. Nous ne sommes plus cette génération élue, cette nation sainte et ce peuple acquis que nous étions autrefois. Nous ne pouvons plus nous appliquer ce que saint Paul a dit de l'Église, qu'elle est sans tache et sans ride, irrépréhensible et sainte, et que Jésus-Christ s'est donné soi-même pour elle, afin de la sanctifier. Vit-on jamais l'ignorance, l'indifférence de religion, le mépris de la parole de Dieu, le blasphème, l'impiété régner avec plus d'audace qu'aujourd'hui? Vit-on jamais plus d'orgueil et de vanité dans nos actions, plus de licence et de hardiesse dans nos discours, plus de médisance et de railleries amères dans nos entretiens, plus de jeux, de rires et de divertissements mondains dans nos assemblées de famille, plus de faste et de somptuosité dans nos habits, dans nos équipages et dans nos ameublements? Nous sommes à deux doigts de notre ruine, et nous vivons pourtant encore dans la dernière corruption et dans la dernière sécurité. Je ne le trouve pas étrange de ceux qui ne prennent nul intérêt en la religion. De quelque côté que la chose tourne, ils trouveront leur compte partout. Mais vous, gens de bien, car ce n'est qu'à vous que je parle, serez-vous si endormis qu'on ne puisse encore vous réveiller? Aurez-vous tellement perdu l'usage de vos yeux que vous ne voyez pas l'état où nous sommes, et en le voyant dans toute son étendue, vous contenterez-vous d'une médiocre repentance? Serez-vous satisfait de quelques mouvements de douleur passagère, de quelques regrets ordinaires, de quelques soupirs échappés? Ah, mes frères, il ne s'agit plus de cela. Il s'agit de détourner le plus grand de tous les orages dont Dieu nous ait jamais menacés. Il s'agit non d'arrêter sa bénédiction et d'empêcher qu'elle nous quitte, mais de la rappeler de fort loin, car il y a déjà longtemps qu'elle nous a quittés, et vous voyez bien que pour cela il faut des efforts extraordinaires. S'il y reste donc quelque chose à faire, comme je n'en doute pas, faites-le, je vous prie, dans cette heure et dans ce moment même qui est destiné à la propitiation. Faites-le à la vue du sang de Jésus-Christ, à la vue de la croix et des douleurs de son sacrifice, dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire. Ce sera lui qui criera pour nous vers la grâce afin de la faire revenir. Aidez, si je l'ose ainsi dire, aux tendresses de la miséricorde par une profonde affliction. Elle commence déjà, je m'assure, à s'ébranler en votre faveur. Achevez de l'émouvoir en répandant à ses pieds un torrent de larmes. Dieu vous dit aujourd'hui ce qu'il disait autrefois à la maison d'Israël. Venez maintenant et débattons nos droits. Ésaïe chapitre 1. Mais quels droits avons-nous à débattre devant toi, Seigneur, si ce n'est les droits de ta justice? Tu es un Dieu trop bon, et nous un peuple trop ingrat. Tu nous as comblés de bénédictions, et nous avons couvert notre vie d'iniquité. Tu as été jusqu'ici trop indulgent à nos crimes, et nous avons poussé ta patience à bout. Il est temps que tu réveilles ta jalousie et que nous soyons abîmés. C'est ainsi qu'il faut débattre avec Dieu en soutenant ses droits et en abandonnant les nôtres. Mais si nous en usons de la sorte, quelle sera la fin de cette querelle? Quelle en sera la fin? Dieu prendra en main nos droits abandonnés et laissant là sa justice et nos péchés, il n'aura égard qu'à notre misère et à notre repentance. Écoutez ce qu'il ajoutait lui-même dans son prophète. Quand vos péchés seraient rouges comme du cramoisi, je les blanchirai comme de la neige. Et ce que Salomon dit maintenant, il y aura propitiation pour l'iniquité. Mais si nous voulons que Dieu nous fasse miséricorde, souvenons-nous des deux conditions qu'il exige de nous, gratuité et vérité. Exercez la première part des aumônes et des largesses aux pauvres, que Jésus-Christ, qui s'est fait lui-même pauvre pour vous, vous a si fort recommandé dans son évangile. Si Dieu vous pardonne aujourd'hui vos péchés, il vous redonne l'usage légitime de votre bien, et s'il vous en redonne l'usage, dispensez-en une partie pour l'amour de lui à ses membres qui sont sur la terre. Votre reconnaissance ne saurait aller jusqu'à lui. « Mon bien ne va point jusqu'à toi, » dit le psalmiste, « qu'elle descende donc sur ses images, sur les images de son Fils, puisqu'il vous a déclaré qu'il tiendrait comme reçu par lui-même un simple verre d'eau froide quand vous le leur donnerez. Comptez les péchés que Dieu vous pardonne. Serait-ce trop que de faire une aumône pour chacun? Non, sans doute, et quelle proportion y a-t-il d'une aumône à un péché? Mais cela même ne se peut, car je suis assuré que vous avez plus de péchés que vous n'avez de bien. Faites donc au moins de bonne foi ce que vous pourrez, chacun selon ses facultés. On ne vous prescrit rien sur cela. Vos offrandes doivent suivre les mouvements de votre conscience et les instincts de votre charité. Pratiquez encore cette gratuité en n'exigeant pas trop durement ce qui vous est dû. Les droits même de la justice, quand ils sont poussés avec trop de sévérité, deviennent une injustice. On les peut exiger, mais il le faut toujours faire avec un tempérament de douceur et de charité chrétienne, car il n'y a rien de plus contraire à l'esprit de la religion de Jésus-Christ que cette rigoureuse exactitude qui ne sait ce que c'est que de condescendance et de relâchement. Pratiquez en général cette gratuité dans toute la conduite de votre vie, en vous montrant bénins et débonnaires les uns envers les autres, accessibles et faciles aux petits, prompts à rendre office à ceux qui ont besoin de votre secours, compatissant aux afflictions de vos frères, supportant leurs infirmités et leur tendant favorablement la main pour les relever de leur chute. Pratiquez enfin cette gratuité en pardonnant de bon cœur les offenses qu'on vous a faites. Réconciliez-vous avec vos prochains et vous réunissez tous en Dieu. Hâtez-vous pour cela et vous prévenez les uns les autres, car dans ces occasions, celui qui prévient son frère témoigne qu'il est le plus aimé de Dieu et le plus confirmé dans la communion de Jésus-Christ son Fils. Nous n'avons tous qu'un même Père et un même Dieu, un même Sauveur, une même espérance, une même foi, un même esprit et un même héritage. D'où viennent donc nos dissensions? Non seulement elles ne viennent pas de la grâce, mais elles sont même incompatibles avec la grâce, car la grâce unit, et partout où il n'y a point d'union, il n'y a point de grâce. Elles ne viennent pas non plus de la nature, car la nature unit de même que la grâce. Elles viennent donc de la chair et de la corruption du péché, d'où il s'ensuit que celui qui paraît le plus éloigné de la réconciliation et de la paix montre par cela même qu'il a plus de chair et de corruption, et au contraire, celui qui s'y porte avec plus de facilité marque plus de génération et plus de sainteté. Pour ce qui regarde la vérité, la seconde condition que Dieu exige de nous, gardez-la, mes frères, dans tous vos discours, et ne permettez jamais que votre langue démente les sentiments de votre cœur. Les fourbes, les hypocrites et les imposteurs sont une abomination à Dieu et aux hommes. Ils le sont à Dieu parce que de tous les vices, il n'y en a point de plus opposé à la piété que le mensonge, ni qui approche plus du caractère essentiel du démon, lequel est menteur aussi bien que meurtrier dès le commencement. Ils le sont aux hommes parce que ce vice, renversant la bonne foi, renverse en même temps le fondement du commerce et rompt le lien de la société mutuelle. Il y avait au temps que Jésus-Christ était sur la terre un nombre presque infini de crimes qui régnaient parmi les Juifs, car jamais nation ne fut plus corrompue que celle-là l'était. Cependant, il semble qu'entre tous les vices dont ils étaient entachés, Jésus-Christ n'ait choisi que la seule hypocrisie pour en faire l'objet de son horreur. Il avertit soigneusement ses disciples de s'en donner de garde, comme d'un levain pernicieux. Il appelle les hypocrites des sépulcres blanchis. Il leur dénonce très souvent les jugements de la justice divine. « Malheur, dit-il, sur vous, pharisiens hypocrites, pour nous faire comprendre combien il avait d'aversion pour eux. Gardez particulièrement cette vérité dans vos actions. Ne trompez personne, mais allez toujours d'un pas droit et sincère dans vos commerces. La bonne conscience rejette les artifices et les obliquités, et elle ne sait ce que c'est que de surprendre et de tendre des pièges à la simplicité du prochain. Joignez ensemble ces deux vertus. » Gratuité et vérité, comme les deux caractères des gens de bien qui les distinguent d'avec les mondains. Car les mondains en ont deux opposés, la violence et la fourberie, la malice et le déguisement. Sous de contraires apparences, ils couvrent des desseins d'oppression, semblables à ces nuées malignes qui, dans une profonde obscurité, cachent des grêles et des foudres. David représente admirablement bien ces sortes de gens dans un de ses psaumes. Ils se tiennent aux embûches des villages, ils tuent l'innocent dans les lieux secrets, ils épient de leurs yeux les troupeaux des désolés. Ils se mettent aux embûches dans des lieux cachés, comme des lions dans leur fort pour attraper l'affligé. Ils l'attrapent en effet et l'attirent dans leur filet. Ils se tapissent et se baissent, et puis le troupeau des désolés tombe entre leurs mains. Il n'y a point de propitiation pour de tels gens, mais il y en a pour la gratuité et la vérité. Je ne puis m'empêcher de vous faire encore une remarque sur ce que Salomon joint ensemble ces deux vertus. C'est qu'en effet, elles sont inséparables comme le sont aussi les deux vices opposés. Un homme qui a de méchantes intentions et qui ne songe qu'à faire du mal ne saurait s'empêcher d'être fourbe. C'est une suite naturelle et inévitable. Il faut se cacher quand on a dessein de nuire. Le diable, au commencement du monde, ne fut menteur que parce qu'il voulut être meurtrier. Mais quand on n'a pour ses prochains que des pensées de paix et de bienveillance, on n'a que faire de se cacher. La vérité, c'est-à-dire la sincérité, accompagne toujours la gratuité. Un homme de bien est fort libre, il n'est pas obligé d'être hypocrite. Au reste, Salomon ne s'arrête pas là. Il veut qu'en pratiquant les vertus dont nous venons de parler, on se détourne aussi du mal. Par la crainte de l'Éternel, dit-il, on se détourne du mal. Dieu ne reçoit point ces vertus mêlées de vices, ces sanctifications à quelque égard dont nous ne voyons tous les jours que trop d'exemples. Combien y en a-t-il de personnes dont la vie n'est qu'un perpétuel assemblage de bien et de mal? Ils prient Dieu, mais ils pillent leur prochain. Ils donnent l'aumône et ils dérobent. Ils viennent ici le matin, et quand ils sont de retour, ils emploient le reste du jour à leur débauche. Ils sont d'un côté dévots, zélés, pacifiques et bienfaisants, mais de l'autre ils sont vains, ambitieux, adonnés au plaisir des sens. Ils ont trouvé l'art de joindre ensemble Christ et Bélial, la lumière et les ténèbres, bien que l'Écriture ait dit que ces choses ne se peuvent accorder ensemble. La vraie justice évangélique n'est pas brouillée de cette manière. Elle a deux mains. De l'une, elle établit les vertus, et de l'autre, elle chasse les vices. Elle fait ce que Dieu disait à Jérémie de faire. Elle plante et elle arrache. Elle bâtit et elle démolit. Il ne suffit pas d'exercer gratuité et vérité. Il faut encore se détourner de tout mal, car un peu de levain corrompt et aigrit toute la pâte. Souvenez-vous-en, mes frères, et tâchez de rendre tant qu'il vous sera possible votre justice parfaite. Mais pour bien s'abstenir du mal, souvenez-vous aussi qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Tout nous porte au péché, mille tentations nous y sollicitent. Le monde fait ses derniers efforts pour nous faire abandonner la droite voie. Le crime a des appâts séduisants qui flattent, qui résonnent, qui corrompent le cœur et qui font illusion à l'esprit, et naturellement le cœur et l'esprit ne sont que trop enclins à se laisser surprendre. Il n'y a rien qui ne puisse soutenir contre tant d'assauts que la crainte de Dieu. Mais il est certain aussi qu'elle nous soutiendra si puissamment, si nous l'appelons à notre secours, que tous les efforts contraires demeureront inutiles. C'est une vérité que vous n'ignorez pas, et l'expérience vous la confirme. Mais cela même vous fait voir combien cette crainte nous est nécessaire et combien il est important de l'établir dans nos cœurs. Travaillez-y, mes frères, de tout votre pouvoir, et voici pour vous y aider quelques règles que je vous conseille de suivre. Premièrement, il est bon que vous mettiez souvent devant les yeux les terribles exemples de la justice et de la vengeance divine sur les pécheurs, et de quelle manière Dieu fait tomber sur eux ses jugements avec éclat. Pour cet effet, méditez attentivement les histoires épouvantables que l'Écriture nous a données de la ruine du premier monde par le déluge, de l'embrasement des cinq villes qui périrent par le feu du ciel, des plaies dont il frappa l'Égypte pour punir son endurcissement, des châtiments rudes et sanglants qu'il a déployés sur l'ancien peuple quand il s'était égaré et écarté de son devoir. Et si ces exemples vous paraissent trop éloignés, arrêtez-vous sur ce que nos jours mêmes vous fournissent. Combien avons-nous vu de personnes fières de leurs péchés, et qui, au lieu de s'en repentir, s'en faisaient au contraire une gloire, périr misérablement au milieu même de leur prospérité, lorsqu'il ne semblait pas que rien n'en pût arrêter le cours, périr, dis-je, par des coups imprévus de la Providence, et ne laisser dans leur fin qu'un monument funeste de la justice et de la colère divine. Combien en avons-nous vu qui, après avoir joui paisiblement du fruit de leur débauche durant quelque temps, sont tout à coup tombés dans la dernière désolation, où ils ont passé plusieurs années parmi les plaintes et les douleurs amères? Combien avons-nous vu de familles superbes qui, pour avoir pris de l'interdit, se sont fondues insensiblement et peu à peu, comme on voit fondre un corps par la force secrète d'un poison lent? Je sais qu'il ne faut pas juger témérairement des afflictions que la Providence divine dispense, car elle les dispense comme il lui plaît, et souvent par des motifs que nous ne connaissons pas. Mais il est certain aussi qu'il y a souvent des exemples où la main de la justice éternelle paraît si visiblement qu'il n'est pas possible de la méconnaître, et alors ce n'est point témérité, c'est piété que d'adorer ses voies et ses jugements. C'est donc ce que je désire en premier lieu que vous fassiez pour vous former de plus en plus à la crainte de la divinité. Mais, outre cela, il faut soigneusement appliquer votre esprit et votre cœur à la méditation de tous les objets qui nous représentent la majesté souveraine et ineffable de Dieu et qui nous peuvent donner une juste idée de sa gloire. Telles sont les œuvres de la création, le ciel et les éléments, le soleil et ses étoiles, la mer et sa fécondité, la terre avec sa plénitude. Telles sont les œuvres de la Providence, la conservation entière de l'univers depuis tant de siècles, le cours si réglé et si bien établi des générations, la distribution des peuples, des royaumes, des provinces, des villes et des familles, avec leurs accidents et leurs révolutions. Mais telles sont principalement les merveilles de la grâce et toutes les profondeurs des mystères de Dieu que l'Évangile nous a révélés, comme les voies ineffables de sa sagesse dans l'envoi de Jésus-Christ au monde, les tendresses de sa compassion pour le genre humain tombé dans le péché, les secrets incompréhensibles de son élection, l'efficace toute-puissante de son esprit pour la conversion des fidèles, les biens inénarrables de l'héritage qu'il nous prépare. Tous ces grands et divins objets nous font connaître chacun à part la grandeur de la majesté divine d'une manière fort éclatante. Mais quand on les met tous ensemble devant ses yeux, ils en forment une image si glorieuse et si pleine qu'il n'est pas possible qu'on en soit ébloui, qu'on ne la respecte et qu'on ne s'écrie en même temps « Qu'est-ce que de l'homme que tu aies souvenance de lui et du Fils de l'homme que tu le visites ?» Enfin, un des plus importants préceptes que je puis vous donner sur ce sujet est de vous répéter et de vous arrêter souvent à la méditation de vos péchés et de la bonté que Dieu a eue de vous les pardonner. Considérez en général la nature du péché qui est l'œuvre du démon, le fruit de sa victoire et son malheureux caractère qu'il imprime en l'homme. Voyez de quelle force est l'aversion que Dieu a contre lui, car il ne se peut pas concevoir d'opposition plus grande ni plus immédiate que celle qui est naturellement entre la divinité et le péché. Voyez la peine qui le suit dans l'ordre de la justice, car il n'est pas plus vrai que Dieu est le juge de l'univers et qu'il faut que tous les hommes comparaissent devant son trône, qu'il est vrai que le péché ne saurait demeurer impuni. En particulier, examinez un peu de près ce que vous avez commis. Considérez-en le nombre, voyez-en l'énormité, pesez-en toutes les circonstances, faites réflexion sur la facilité avec laquelle vous vous y êtes porté, et après avoir bien regardé cet abîme, jetez les yeux sur la grâce qui vous en a retiré et sur les voies dont elle s'est servie pour cela. N'a-t-il pas fallu une force infinie pour exciter en vous les sentiments de la repentance? N'a-t-il pas fallu une miséricorde inconcevable pour vous pardonner? N'a-t-il pas fallu le sang d'une victime éternelle pour vous y consacrer? Après cela, pourrez-vous songer sans frayeur à commettre de nouveaux crimes? L'idée de ces faux plaisirs qui vous ont si malheureusement trompé ne vous fera-t-elle pas horreur? L'ingratitude contre un Dieu si grand et si bon ne vous paraîtra-t-elle pas la chose du monde la plus noire? N'appréhenderez-vous pas de retomber dans le bourbier dont vous êtes sorti? Ne craindrez-vous pas d'irriter la miséricorde et de vous rendre ennemi le sang de votre propitiation? N'aurez-vous point de peur de votre propre fragilité et ne vous précautionnerez-vous pas contre ces chutes? C'est ainsi, mes frères, que je vous conseille de vous confirmer en la crainte de Dieu. Si vous en usez de la sorte, vous serez heureux, car en le craignant, vous n'aurez plus rien à craindre. Comme la verge d'Aaron engloutissait celle des Égyptiens, la crainte de Dieu fait disparaître toute autre crainte. Salomon nous l'enseigne en dernier lieu. Quand l'Éternel, dit-il, prend plaisir aux voies de l'homme, il apaise même envers lui ses ennemis. Qu'avons-nous à vous dire sur ces dernières paroles? Pour des ennemis, vous en avez en grand nombre. Il n'est pas nécessaire de vous en avertir, vous le savez assez, et vous ne le sentez que trop. Mais ce qu'il faut vous dire, et qui fait même une partie de la crainte de Dieu à laquelle je vous exhorte, c'est qu'au lieu d'avoir du ressentiment contre eux, au lieu de leur rendre animosité pour animosité, vous devez au contraire prier Dieu pour eux et leur rendre avec affection toutes sortes d'offices quand les occasions s'en présenteront. La loi de Jésus-Christ vous y oblige. Aimez, dit-il, vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous courent dessus et qui vous persécutent. Priez donc Dieu qu'il lui plaise par sa miséricorde de leur pardonner leurs péchés et, en particulier, ceux que leur fait commettre cette excessive aigreur qu'ils ont conçue contre nous sans raison. Priez-le qu'il les illumine, afin qu'en distinguant désormais les objets un peu mieux qu'ils n'ont fait jusqu'à cette heure, ils reconnaissent le tort qu'ils nous font et celui qu'ils se font à eux-mêmes. Ils ne nous haïssent que parce qu'ils se sont formés de nous une idée fort étrange. Mais si Dieu daignait exaucer nos vœux, et qu'en les désabusant de leurs faux préjugés, il leur fit voir l'innocence et la justice de notre profession, telle qu'elle est en effet, de quelle componction de cœur ne serait-il pas touché, et quelle serait notre joie? J'avoue qu'un si grand bonheur est assez éloigné de l'apparence, et néanmoins, il ne faut pas laisser de le demander. Toutes choses sont possibles à Dieu. Il est le maître des hommes aussi bien que des temps et des saisons. Cependant, si nous prenons soin de disposer tellement nos voix qu'elles lui puissent plaire, il faut espérer qu'il apaisera nos ennemis envers nous. Il adoucira leur esprit et changera cette humeur fâcheuse qui les anime contre notre religion. Et quand il ne le ferait pas, nous devons toujours être assurés qu'il nous accordera sa paix et sa bénédiction, qui est le plus grand de nos biens. Ce sera, mes frères, sous cette bénédiction que nous jouirons aussi de la protection de notre puissant monarque, laquelle, après celle de Dieu, doit être notre unique refuge. Ce grand prince n'ignore pas l'ardeur, le zèle et la fidélité que nous avons pour son service, mais nous ne devons pas ignorer aussi de quelle nécessité nous est sa bienveillance. Tout serait déclaré contre nous s'il retirait cette ombre, ou pour mieux dire, ces rayons sacrés de son autorité qui nous couvrent et qui nous défendent. Nous ne pouvons avoir sur la terre d'autre recours qu'à sa justice. Elle seule est l'asile qui reste à notre espérance. C'est ce qui nous doit d'autant plus obliger à prier le roi des rois, que par sa providence immortelle, il veuille le garder et le conserver en toutes occasions, et particulièrement aujourd'hui dans les périls de la guerre où sa majesté va s'exposer pour le repos de ses peuples. Que Dieu soit donc son soleil et son bouclier, comme il l'était autrefois de David, qu'il l'accompagne dans ses expéditions militaires et qu'il préside lui-même dans ses conseils. Prions-le de plus qu'il lui plaise d'incliner son cœur vers nous et de nous le rendre favorable. C'est ce que Dieu fera sans doute si de notre part nous apprenons à bien régler notre conduite et notre vie, si nous sommes pieux et zélés, humbles et patients, justes et charitables, simples et modestes, fidèles et sincères, doux à nos inférieurs, équitables à nos égaux, soumis et obéissants à nos magistrats. De cette manière, nous devons espérer que Dieu aura soin de nous et quand notre roi aura la bonté de vouloir s'informer par lui-même de ce que nous sommes, il lui arrivera ce qui arriva à un de ses illustres et glorieux prédécesseurs sur le sujet des habitants des vallées de Provence. Ces pauvres fidèles, qui étaient alors les tristes restes des Vaudois, furent cruellement accusés, poursuivis devant ce prince comme des hérétiques et des criminels. On excitait sa colère et sa justice contre eux par de fausses et odieuses imputations, et on ne demandait pas moins que leur sang et leur ruine entière. Mais avant que de se déterminer, ce prince équitable voulut envoyer des commissaires sur les lieux, et quand les commissaires lui en eurent fait leur rapport, ayant reconnu visiblement leur innocence, l'histoire remarque qu'il s'écria « Ils sont plus gens de bien que tout le reste de mon royaume. Faisons en sorte que notre grand monarque dise la même chose de nous, et qu'un semblable témoignage de la bouche royale soit notre apologie dans ce siècle et notre gloire envers la postérité. » C'est ici, mes frères, qu'il faut finir cette action, et avec cette action la solennité de cette journée. Mais comment la pouvons-nous mieux finir que par les vœux ardents que nous présentons à Dieu pour vous? Recevez donc la bénédiction que je vous donne tant en mon nom qu'au nom des autres serviteurs de Dieu, mes compagnons d'œuvre au milieu de vous. Comme nous n'avons tous qu'un même cœur et un même sentiment pour vous, nous n'avons aussi qu'une voix, et c'est ici la bénédiction de notre commun ministère. Dieu veuille vous redonner aujourd'hui sa paix et sa faveur, en vous pardonnant vos péchés, vous faire bientôt cueillir les fruits de sa réconciliation avec vous. Dieu veuille affermir pour toujours son alliance dans ce troupeau et vous conserver à vous et à vos enfants, jusqu'à la fin des siècles, le précieux avantage de sa parole et de son service. Dieu veuille accompagner de son efficace céleste la parole qui vous est prêchée et vous donner d'en haut l'accroissement pendant que Paul plantera et qu'Apollos arrosera, afin que vous puissiez lui rendre abondamment tous les jours de votre vie les fruits que mérite sa culture. Dieu veuille confirmer sa crainte et son amour dans vos cœurs, et en modérant vos passions, éloigner de vous les occasions de mal faire et vous épargner les tentations. Dieu vous fasse la grâce d'élever vos chers enfants dans le sentiment de la justice, et lui-même veuille tourner par son Saint-Esprit leur jeune cœur à l'obéissance de ses lois et à l'espérance de son royaume, afin que, faisant leur devoir, vous en ayez de la joie et de la consolation. Dieu veuille au reste vous bénir chacun de vous dans le travail de sa vocation et vous départir des biens temporels, ce qu'il jugera lui-même vous être nécessaire pour le repos de votre vie et pour achever heureusement votre course en la communion de Jésus-Christ son Fils. Allez donc, peuple fidèle, retirez-vous dans vos maisons, plus riches et plus contents que vous n'en êtes partis ce matin, puisque vous emportez avec vous la paix du ciel et l'espérance de la protection divine. Ne perdez pas le souvenir de cette réconciliation. Rendez-lui sans cesse les devoirs de votre reconnaissance et de votre fidélité. Que votre lumière luise devant les hommes, afin que les hommes, voyant vos bonnes œuvres, le glorifient sur la terre, et qu'il vous glorifie un jour vous-même en vous recevant dans son paradis. À lui, Père, Fils et Saint-Esprit, soit honneur, force et empire, au siècle des siècles. Amen.